Chapitre 49.
Alors, où sont-ils tous passés?
Demande le blond Achille au pied rapide, tout en suivant Héphaïstos sur le sommet herbu d'Olympos. Le tueur d'hommes et le dieu du feu, artificier en chef de tous les dieux, longent le lac de la caldeira pour gagner le grand hall des dieux depuis le hall du guérisseur. Les autres demeures aux colonnades blanches semblent désertes. On ne voit aucun char dans le ciel. On ne voit aucun immortel arpentant les allées pavées, qui sont éclairées non pas de torches, ainsi que le remarque Achille, mais par des lampes à l'éclat jaune.
« Comme je te l'ai déjà dit !»
rétorque Héphaïstos.
« Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Les dieux sont presque tous descendus sur la terre d'Ilium pour participer au dernier acte de ta minable guerre de Troie. »
« Comment se déroule la guerre ?» demande Achille.
« Vu que tu n'es plus là pour tuer Hector, les Troyens sont en train de foutre la pâtée à tes myrmidons, ainsi qu'à tous les Argiens et à tous les Achéens. »
« Agamemnon et les siens battent donc en retraite ?»«
Ouais. La dernière fois que j'ai jeté un coup d'œil à l'holo bassin du Grand Hall, il y a quelques heures à peine, juste avant d'aller estimer les dégâts subis par mon escalator et me faire piéger par un champion de catch, j'ai vu que la énième attaque lancée par Agamemnon avait été repoussée, que les Achéens se repliaient derrière leur retranchement près des nefs noires. Hector était sur le point de faire une sortie, il se décidait enfin à reprendre l'initiative. Ensuite, tout s'est résumé à la question suivante. Qui, parmi nous, les immortels, est le plus dur à cuire de tous, hein? Même avec les foudres de guerre en jupon comme Érée et Athénée dans le camp achéen, sans parler de Poséidon qui ébranle le sol pour faire chier les Troyens, c'est son truc à lui, l'ébranleur. Il semble que la victoire favorise les dieux partisans d'Ilium. Apollon, Arès, cette punaise d'Aphrodite et sa copine Déméter. En tant que stratège, Agamemnon ne vaut pas tripette.
Achille se contente d'opiner du chef. Sa destinée est désormais aux côtés de Penthésilée et non d'Agamemnon et de ses armées. Il espère que ses myrmidons agiront comme ils le doivent, en fuyant s'ils le peuvent, en mourant au combat dans le cas contraire. Depuis qu'Athénée, ou bien Aphrodite ayant usurpé son aspect si la déesse de la sagesse lui a bien dit la vérité, a tué son bien-aimé Patrocle, Achille ne pensait plus qu'à se venger des dieux. Désormais, et bien qu'il sache que seule la magie d'Aphrodite en est responsable, il n'a plus que deux objectifs. Ramener à la vie sa bien-aimée Penthésilée et tuer cette salope d'Aphrodite. Sans même se rendre compte de son geste, Achille a juste la dague d'Éicide passée à son ceinturon. Si Athénée lui a dit la vérité, et Achille l'a cru, cette lame d'acier à face quantique signifiera la mort pour Aphrodite et pour tout immortel se dressant sur sa route, y compris ce dieu du feu boiteux, pour peu qu'il lui prenne envie de le contrarier. Héphaïstos conduit Achille vers un espace proche du grand hall des dieux, où plus d'une vingtaine de chars dorés attendent sur l'herbe, reliés par des cordons métalliques à une source d'énergie souterraine. L'artificier saute dans l'un d'eux et fait signe à Achille de le suivre. Il hésite.
Où allons-nous?
Je te l'ai déjà dit. Voir le seul immortel qui sache peut-être où se trouve Zeus.
Pourquoi ne partons-nous pas à la recherche de Zeus?
Demande Achille qui renacle à l'idée de monter dans ce char. S'il est parfaitement à son aise dans un char normal, jamais il n'a mis les pieds dans l'un de ces appareils magiques qui permettent aux dieux de voler au-dessus d'Ilium et d'Olympos, et bien qu'on ne puisse le traiter de couard, il n'est guère pressé de quitter la terre ferme.
Il existe un dispositif connu du seul Zeus, et grâce auquel il échappe à tous mes capteurs et systèmes d'espionnage,
explique Héphaïstos.
De toute évidence, ce dispositif a été activé sans doute par Érée, plutôt que par le dieu de tous les dieux.
Qui est cet immortel qui pourrait nous dire où se cache Zeus?
Achille est distrait par les éléments qui se déchaînent au-dessus de lui. Car l'égide mise en place par Zeus continue de subir les assauts d'une tempête de sable, d'éclairs aveuglants et de décharges d'électricité statique.
« Nix !»
répond Héphaïstos.
« La nuit !» répète Achille.
Le tueur d'hommes aux pieds rapides connaît le nom de cette déesse. Fille du chaos, elle est l'une des premières créatures douées de conscience à avoir émergé du vide qui régnait au commencement des temps, avant que les dieux originels séparent les Rèbes, les ténèbres infernales, de Gaïa, la terre de bleu et de vert. Mais aucune cité à sa connaissance, en Grèce, en Asie ou en Afrique, ne voue un culte à Nyx la mystérieuse. S'il faut en croire la légende, Nyx a engendré sans l'aide d'un quelconque immortel mâle, Eris, la discorde, les moires, la destinée, Hypnos, le sommeil, Némésis, la vengeance, Thanatos, la mort, et les Hespérides.
« Je croyais que la nuit était une personnification, » reprend-il. « Ou alors un tombereau de foutaise. »
Héphaïstos sourit.
« Dans ce meilleur des mondes que les post-humains, Sycorax et Prospero nous ont aidés à mettre sur pied, même une personnification ou un tombereau de foutaise peut prendre forme et substance. Alors, tu viens ? Mais peut-être préfères-tu que je me técu dans mon labo pour jouir de la présence de ta chère Panthésilée pendant que tu continues à glander ici ?»«
Si tu fais une telle chose, je te retrouverai et je te tuerai, tu le sais. »
rétorque Achille de la voix la plus posée qui soit.
« Oui, je le sais, et c'est pour ça que je te le demande une dernière fois. Vas-tu monter à bord de ce putain de char, oui ou non ?»
Ils mettent le cap au sud-est et survolent la moitié du globe martien, mais Achille ne sait pas qu'il est sur Mars, pas plus qu'il ne sait que ce monde est un globe. Ce qu'il sait avec certitude, c'est que ce périple en char, la soudaine apparition de quatre chevaux devant lui, le décollage à la verticale au-dessus du lac, la brutale traversée de l'Égide et la tempête de sable qui l'a suivi, constituent une expérience qu'il ne souhaite pas renouveler. Agrippé de toutes ses forces à la rambarde en bronze du char divin, il lutte vaillamment pour ne pas fermer les yeux. Fort heureusement, le véhicule est entouré d'une sorte de champ énergétique, une petite égide, suppose-t-il, ou alors une variante de l'armure invisible des dieux, qui les protège des morsures du sable. Il survole bientôt la tempête, sous la voûte d'un ciel piqueté d'étoiles brillantes, où deux petites lunes filent à toute vitesse. Lorsque le char passe au-dessus de trois immenses volcans alignés, ils ont laissé la tempête au loin et la clarté des étoiles permet de distinguer le paysage en contrebas. Achille sait qu'Olympos, la demeure des dieux, se situe sur un autre monde. Cela fait 8 mois qu'il guerroie sur une plaine rouge, sous cette brèche que ses alliés moraveques appelaient le trou de Bran, et qu'il contemple les vagues languides d'une mer qui n'a rien de familier. Mais jamais il n'aurait cru que le monde des Olympiens puisse être aussi vaste. Il survole un interminable ravin envahi par les eaux, un fleuve ténébreux qu'éclaire la lueur des étoiles et quelques lanternes mouvantes, les balises des barges des petits hommes verts à en croire Héphaïstos. Achille s'abstient de lui demander des précisions. Il survole des chaînes montagneuses dénudées, d'autres tapissées de forêts, et d'innombrables dépressions circulaires, des cratères selon le dieu du feu, tantôt peuplées d'arbres, tantôt occupées par un lac, aux ombres et aux contours nettement découpés. Ils prennent de l'altitude jusqu'à ce que cesse le bruit de l'air sifflant autour de la petite égide les protégeant, et Achille inhale soudain une bouffée d'air émise par le char. L'oxygène presque pur manque de le griser. Héphaïstos récite pour son bénéfice les noms des montagnes et des vallées qui défilent au-dessous d'eux. Le dieu boiteux, songe Achille, ressemble à un nocher annonçant d'une voix morne les étapes de son parcours.
« Chalbatana Valis !»
dit l'immortel qui reprend au bout de quelques minutes.
Margaratifer Terra, Medidiana Planum, Terra Sabea. Cette forêt touffue au nord, c'est Schiaparelli, et ses collines sont celles de Huygens. Nous filons plein sud à présent.
Le char tracté par 4 chevaux translucides oblique sèchement et Achille s'agrippe de plus belle, bien que le plancher sous ses pieds, aussi impossible que cela paraisse, reste obstinément horizontal.
Et ça, qu'est-ce que c'est ?
Demande-t-il quelques minutes plus tard. Devant eux vient d'apparaître un lac circulaire qui semble s'étendre à perte de vue. Le char entame sa descente, et bien qu'on ne signale aucune tempête de sable, l'air se met à mugir.
Le bassin d'Hélas,
grommelle le dieu du feu.
Il mesure environ 2100 km de large, soit un diamètre légèrement supérieur à celui de Pluton.
Pluton ?
La planète, crétin préalphabétisé !
Gronde Héphaïstos. Achille lâche la rambarde, prêt à passer à l'action. Il va saisir le dieu boiteux, lui rompre l'échine sur sa cuisse et le jeter dans le vide. Puis il jette un coup d'œil aux pics et aux vallées qui défilent plusieurs stades plus bas, et décide d'attendre que le nain ait fait atterrir le véhicule. Le lac remplit bientôt la totalité de son champ visuel. Lorsqu'il passe au-dessus de sa rive incurvée et descend vers ses eaux où se reflètent les étoiles, Achille décide que ce lac circulaire est en fait un véritable océan.
« La profondeur varie de 3000 à 6000 mètres !»
précise Héphaïstos à un Achille indifférent.
« Les deux fleuves qui se jettent dedans à l'est s'appellent Dao et Armakis. À l'origine, nous avions prévu de peupler leur vallée fertile d'un ou deux millions d'humains à l'ancienne et de laisser ceux-ci croître et se multiplier. Mais on n'a jamais eu l'occasion de braquer le rayon ici pour les défaxer. À vrai dire, Zeus et les autres lurons du Panthéon premier ont oublié tout ce qui s'est passé avant leur divinisation. Pour nous tous, cette époque était comme un rêve. En outre, Zeus était trop occupé à renverser ses parents, les titans de la première génération, Cronos et Rhea, son épouse et sa sœur, pour les précipiter dans le Tartare, ce monde qui n'est accessible que par la brane. »
Héphaïstos s'éclaircit la gorge pour se mettre à chanter comme un naède, et sa voix évoque aux oreilles d'Achille une scie rouillée découpant une lyre désaccordée.
« Et la mer immense résonna horriblement, et la terre mugissait avec force, et le large Ouranos gémissait, tout ébranlé, et le grand Olympos tremblait sur sa base au choc des dieux. » Et un vaste retentissement pénétra dans le Tartaros noir, bruit sonore des pieds, tumulte de la mêlée, et violence des coups. »
Achille ne voit plus que des eaux noires autour de lui, des eaux défilant à une vitesse impossible, car les falaises bordant le lac ont disparu derrière l'horizon. Au sud apparaît une île aux contours escarpés.
« Si Zeus a gagné la guerre, »
poursuit Héphaïstos,
« c'est parce qu'il a activé les machines à percer les branes des postes humains placés en orbite autour de la Terre. Je parle de la vraie Terre, pas de la tienne ni de cette putain de contrefaçon terraformée. Et qu'il a recruté Cétébos et son engeance pour affronter les légions de Cronos. Grâce à leurs armées énergétiques et à leur appétit pour les terreurs inhumées, ces monstres aux mains multiples ont emporté la décision. Sauf qu'on a eu un mal fou à les éliminer une fois la guerre achevée. Et puis l'un des rejetons des titans, Prométhée, le fils de Japet, a joué les agents doubles. Et puis ce monstrueux clone à 100 têtes baptisé Typhon, fabriqué dans un laboratoire, s'est engouffré dans le trou de Bran durant la 424e année de la guerre. Il fallait le voir, tu peux me croire. Je me rappelle le jour où...
On est bientôt arrivé, coupe Achille.
L'île, poursuit Héphaïstos tandis qu'ils continuent leur descente, mesure plus de 80 lieues de long, pour employer une mesure connue d'Achille, et elle est remplie de monstres.
« De monstres ?»
répète Achille. Ce sujet l'indiffère. Il veut savoir où se trouve Zeus, il veut que Zeus ordonne aux guérisseurs d'ouvrir ses cuves de soins, il veut que l'Amazone Penthésilée revienne à la vie. Le reste, il s'en fout.
« Des monstres !»
répète le dieu du feu.
Les premiers enfants de Gaïa et d'Ouranos sont des démons contrefaits, quoique puissants. Plutôt que de les envoyer rejoindre Cronos et Rhea dans le Tartare, Zeus les a autorisés à demeurer ici. Il y a 3 Cétébosiens parmi eux.
Ce dont Achille se contrefiche. Il scrute l'île qui s'étend devant eux et remarque en son centre un gigantesque château noir bâti sur un pic escarpé. Les quelques fenêtres qui s'ouvrent dans ses murs laissent passer un éclat orangé, comme si l'intérieur était en feu.
Cette île abrite aussi les derniers cyclopes,
annonce Héphaïstos,
ainsi que les Érinyès.
Les furies sont ici, s'exclame Achille. Je croyais que ce n'était qu'un mythe.
Oh que non!
L'immortel estropié vire de bord et les chevaux translucides foncent droit sur un espace dégagé surmontant une corniche noire au pied du château. Des nuées noires se convulsent autour de celui-ci. Dans les vallées en contrebas, on entrevoit des formes furtives.
« Lorsqu'elles seront libérées de leur exil, » reprend le dieu, « elles passeront le reste de l'éternité à traquer les pêcheurs pour les châtier. Elles sont bel et bien celles qui marchent dans le noir, avec en guise de cheveux des serpents ondoyants, avec des yeux rouges pleurant des larmes de sang.
« Qu'elles y viennent !» dit le fils de Pélée.
Le char se pose en douceur au pied d'une haute sculpture au piédestal de roche noire. Les roues grincent et les chevaux s'évaporent. L'étrange panneau lumineux que manipulait l'artificier disparaît lui aussi.
Bien.
Héphaïstos conduit Achille vers un large escalier prenant naissance de l'autre côté de la statue. Sa patte folle traîne sur le pavé. Achille ne peut s'empêcher de jeter un regard à la sculpture. Haute de 200 coudées, elle représente un homme portant sur ses épaules la sphère terrestre et la sphère céleste.
Un portrait de Japet,
hasarde Achille.
Non,
rétorque le dieu du feu.
C'est ce vieil atlas en personne. Ici, pétrifié pour l'éternité.
La 400e marche est la dernière. Au-dessus du palier se dresse le château noir dont les tours, les flèches et les donjons se perdent dans les nuées. Les deux portes qui se présentent à eux font 30 coudées de haut. Le seuil sur lequel elles s'ouvrent en fait 30 de large.
Nyx et Héméra, la nuit et le jour, se croisent ici le matin et le soir,
murmure Héphaïstos.
Quand l'une rentre, l'autre sort. Jamais on ne les trouve en même temps dans le château.
Achille lève les yeux vers les nuées et le ciel sans étoiles.
Dans ce cas, nous venons au mauvais moment. Je n'ai nul besoin de voir Héméra. D'après toi, c'est avec Nyx que nous devons nous entretenir.
Patience, fils de Pélée.
Le dieu semble agité. Il jette un coup d'œil à une encombrante machine passée à son poignet.
Eos va se lever... maintenant.
Un halo orange se manifeste à l'horizon est de l'île noire. Il s'efface aussitôt.
L'égide polarisée de cette île bloque la lumière du soleil,
chuchote Héphaïstos.
Mais le matin est proche. Dans quelques secondes, le soleil va se lever au-dessus du Dao de Lamarkis et des falaises orientales d'Hellas.
Achille est soudain aveuglé par un éclair. Il entend l'une des portes d'acier se fermer en claquant, l'autre s'ouvrir en grinçant. Lorsqu'il recouvre la vue, les deux portes sont fermées et Nyx se tient devant eux. Quoiqu'il ne manque jamais d'être impressionné par Athénée, Érée et les autres déesses, Achille, fils de Pélée et de Thétis, est pour la première fois de sa vie terrifié par un immortel. Héphaïstos s'agenouille et courbe la tête pour témoigner son respect à la terrible apparition. Mais Achille s'ordonne de rester debout. Ce n'est qu'à grand-peine qu'il se retient de brandir son bouclier devant lui et de dégainer sa dague déicide. Partagé entre l'envie de fuir et celle de se battre, il décide, faute de mieux, de rentrer le menton en une mimique pleine de défiance. Bien que les dieux puissent adopter la taille qu'il leur plaît, Achille ignore tout de la loi de la conversation de la masse et de l'énergie, et jamais il ne comprendrait les astuces utilisées par les immortels pour la contourner, la majorité d'entre eux se sentent confortables aux alentours de 9 pieds. Cela suffit pour rabattre le caquet des mortels, et ils n'ont pas besoin de renforcer outre mesure leurs os et leurs muscles porteurs. La nuit, Nyx, mesure 15 pieds de haut. Elle est enveloppée de volutes ondoyantes, emmaillotée dans des couches de bandes noires dont les pans flottent par centaines, et coiffée d'une sorte de voile noire, à moins que son visage n'ait l'aspect d'un masque de soie noire. Aussi impossible que cela paraisse, ses yeux noirs sont nettement visibles au travers de ce voile et de ses volutes. Avant de détourner les yeux, Achille a eu le temps d'entrevoir ses seins généreux, comme si elle souhaitait dispenser au monde entier un lait de ténèbres. Ses mains fournissent la seule touche de blancheur dans ce portrait, des mains puissantes aux doigts longilignes qui semblent sculptées dans le clair de lune. Achille se rend compte qu'Héphaïstos a pris la parole, ou plutôt entonner un chant.
Nyx, génératrice des dieux et des hommes, Nyx, source de toutes choses, toi que nous nommons Képris, entends-moi, déesse bienheureuse, qui a une noire splendeur, brillante d'astre, qui te réjouit du repos et du profond sommeil, joyeuse, charmante, qui aime les longues veilles, mère des songes, oublie des peines, propice qui repose des travaux, inspiratrice des hymnes, amie de tous, traînée par des chevaux, qui lui, dans l'obscurité, à moitié accomplie.
Sophie, dit la nuit, si j'ai envie d'entendre un imorphique, je n'ai qu'à faire un petit saut dans le temps.
Dieu du feu, comment oses-tu amener un mortel en Hélas dans la brumeuse demeure de Nyx ?
Achille frissonne au son de la voix de la déesse. Quoique compréhensible, elle évoque le fracas des vagues sur les récifs un jour d'hiver.
Déesse qui a naturellement le pouvoir de diviser le jour naturel,
reprend Héphaïstos toujours prosterné.
Ce mortel est le fils de l'immortel Tétis, et c'est un demi-dieu sur la terre dont il est originaire. Il s'appelle Achille, fils de Pélée. Et ses prouesses...
Oh, je connais bien Achille, fils de Pélée, et ses prouesses. Pilleur de cités, violeur de femmes et tueur d'hommes,
réplique Nyx de sa voix tonitruante.
Qu'est-ce qui a bien pu t'inciter à conduire ce soudard devant ma porte noire, artificier?
Achille décide qu'il est temps pour lui de s'exprimer.
J'ai besoin de voir Zeus, déesse.
La forme spectrale se tourne vers lui. On dirait qu'elle flotte sans toucher le sol et sa plantureuse poitrine pivote sans friction. Son visage voilé, ou le voile qui lui sert de visage, le fixe de ses yeux plus noirs que la noirceur. Autour d'elle, ondoient les nuées.
Tu as besoin de voir le dieu du tonnerre, le dieu de tous les dieux, Zeus Pélas, seigneur des 10 000 temples et de l'autel de Dodone, père de tous les dieux et de tous les hommes. Zeus, le roi ultime qui commande aux éléments et règne sur toutes choses.
Ouais,
fait Achille.
À quel sujet ?
S'enquiert Nyx. C'est Héphaïstos qui lui répond.
Achille souhaite qu'une mortelle soit traitée dans une cuve de soins, ô mère du premier œuf noir non fécondé. Il voudrait que Zeus ordonne aux guérisseurs de ressusciter Penthésilée, la reine des Amazones.
La nuit s'esclaffe. Si sa voix évoquait le fracas des vagues sur les récifs, Achille songe que son rire évoque la bise soufflant sur la mer Égée.
« Penthésilée !»
répète la déesse drapée de noir sans cesser de glousser.
« Cette blondasse sans cervelle, cette gouine au gros sein, pourquoi diable souhaites-tu ressusciter cette gourde culturiste ?» Ô fils de Pélée, après tout, si je ne me trompe, c'est toi-même qui l'as cloué à son cheval avec la lance de ton père, comme si tu te confectionnais une brochette de kebab.
Je n'ai pas le choix,
grommelle Achille.
Je l'aime.
La nuit part d'un nouveau rire.
Tu l'aimes ? Toi, Achille ? Qui saute les filles réduites en esclavage, les princesses conquises et les reines captives comme d'autres mordies dans des fruits pour les jeter ensuite ainsi que de vulgaires trognons. Tu l'aimes ?
Eh, c'est le parfum aux phéromones d'Aphrodite,
intervint Héphaïstos toujours à genoux. La nuit cesse de rire.
Quel modèle ?
Demande-t-elle.
Le numéro 9.
Répond Héphaïstos.
La potion de Puck. Celui avec les nanomachines autoduplicantes qui s'insèrent dans le système sanguin pour fabriquer des molécules d'assuétude et priver le cerveau d'endorphine et de sérotonine si le sujet cesse de vouloir assouvir son désir. Il n'existe pas d'antidote.
La nuit tourne à nouveau vers Achille, son visage sculpté dans la soie.
Fils de Pélée, tu es baisé et bien baisé, j'en ai peur. Jamais Zeus n'acceptera de restaurer une mortelle, surtout si c'est une Amazone, une race qui ne lui inspire au mieux qu'une vague irritation. Le père de tous les dieux et de tous les hommes n'apprécie guère les vierges. Ressusciter une Amazone lui apparaîtrait comme un gaspillage éhonté des cuves et des talents du guérisseur.
Je tiens néanmoins à lui adresser ma requête, insiste Achille.
La nuit le considère en silence. Puis l'apparition à la poitrine généreuse et aux écharpes de ténèbres se tourne vers Héphaïstos, toujours en pleine prosternation.
Dieu du feu estropié, vaillant artificier de dieux plus nobles que lui. Que vois-tu lorsque tu contemples ce mortel ?
Un sombre crétin,
maugrait Phaestos.
Moi, je vois une singularité quantique,
dit la déesse Nuit.
Un trou noir probabiliste. Une myriade d'équations ayant toutes la même solution au troisième degré. Comment cela se fait-il, artificier ?
Nouveau grognement du dieu du feu.
La mère de cet arrogant mortel, Tétis au sein mouillé, l'a exposé au feu céleste quantique alors qu'il n'était encore qu'une larve. La probabilité du jour, de l'heure, de la minute et de la cause de sa mort est égale à l'unité. Et comme elle ne peut être altérée, Achille se voit investi d'une sorte d'invulnérabilité à toute autre atteinte.
Mouais,
fait la nuit en ses linceuls.
Fils d'Érée, époux de cette grâce sans cervelle qu'on appelle Aglaé la Glorieuse, pourquoi es-tu cet homme dans sa quête ?
Héphaïstos s'incline d'un cran supplémentaire.
D'abord parce qu'il m'a vaincu en combat singulier, bien-aimée déesse de l'ombre redoutable. Ensuite, parce que ses objectifs coïncident avec les miens.
Et quel objectif poursuis-tu en recherchant Zeus le Père ?
Murmure la nuit. Quelque part dans les ravins enténébrés, un hurlement monte jusqu'à eux.
Mon objectif, déesse, est d'endiguer le flot de chaos.
Nyx acquiesce et tourne son visage voilé vers les nuées qui bouillonnent autour du château.
J'entends hurler les étoiles, artificier boiteux. Quand tu parles de chaos, c'est du chaos quantique que tu t'inquiètes, je le sais. Zeus excepté, tu es le seul dieu qui se souvienne de ce que nous étions avant le changement, qui se souvienne de choses telles que la physique.
Héphaïstos ne bouge pas, ne pipe pas mot.
Suis-tu l'évolution du flux quantique, artificier ?
Demande la nuit. Dans sa voix perce une colère qu'Achille ne comprend pas.
Oui, déesse.
À ton avis, dieu du feu, combien de temps nous reste-t-il à vivre si les vortex de chaos probabilistes continuent de suivre la progression logarithmique qui est la leur ?
Quelques jours, déesse,
grommelle Héphaïstos.
Peut-être moins.
« Les moires sont de ton navire, je t'enverrai !»
déclare Nyx. La puissance de sa voix est telle qu'Achille est pris d'une violente envie de plaquer ses mains calleuses sur ses oreilles.
« Jour et nuit, les moirailles, ces entités extraterrestres que les mortels appellent aussi les parcs, s'escriment sur leurs abacs électroniques, manipulant leurs bulles d'énergie magnétique et leurs brins kilométriques d'ADN calculateurs. » Et chaque jour est à leurs yeux un peu moins assuré, leur trame de probabilité un peu plus effilochée, comme si le métier à tisser du temps s'était rompu.
Ah, c'est cet enfoiré de cet ébos,
marmonne Héphaïstos.
Pardon, madame.
Non, ta formulation est bonne, artificier,
répond la gigantesque Nyx.
C'est cet enfoiré de cet ébos qui se déchaîne sur le monde, ayant échappé à sa prison arctique. L'être humain multiple a débarqué sur Terre, sais-tu ? Pas la Terre de ce mortel, mais notre ancien berceau.
Non,
dit Héphaïstos en relevant enfin la tête.
Je ne le savais pas.
Eh oui, la cervelle a rejoint ses serviteurs.
Elle part d'un nouveau rire, et cette fois-ci, Achille se plaque les mains sur les oreilles. Un tel bruit n'est pas fait pour les mortels.
Combien de temps nous reste-t-il, selon les moirailles ?
Chuchote Héphaïstos.
Clotos, la tisseuse, affirme que le flux quantique fera imploser cet univers dans quelques heures à peine,
répond la nuit.
Atropos, qui tient les ciseaux aborés prêts à couper le fil de notre vie le moment venu, et dont on ne peut prévenir le geste, pense que nous en avons encore pour un mois. et l'Akhésis. Celle qui tire les lots et qui est plus habile que les deux autres, je pense, quand il s'agit de surfer sur les vagues fractales des abacs électroniques, voit le chaos triompher sur ce monde et cette brane dans une ou deux semaines. Dans tous les cas, il nous reste peu de temps artificier.
Comptes-tu fuir, déesse ?
La nuit reste silencieuse. Des hurlements montent des pics et des vallées qui entourent son château. Finalement, elle dit
« Oh, pourrions-nous fuir, artificiers ? Nos autres originels, qui sommes si peu nombreux à présent, où pourrions-nous fuir si notre univers natal sombrait dans le chaos ? Ouvrir un trou de brane, effectuer un saut quantique, signifie créer un lien chaotique avec cet univers. Non, il n'y a point d'issue.
Alors qu'est-ce qu'on doit faire, déesse ? On s'accroche à nos sandales et on dit adieu à notre cul d'immortel ?
La nuit émet un bruit rappelant celui d'une tempête en mer Égée.
Nous devons nous entretenir avec les anciens dieux. Et le plus tôt sera le mieux.
Les anciens dieux.
L'artificier marque une pause.
Chronos, Rhea, Océan, Tétis. Tous ceux qui ont été exilés dans le Tartare.
Oui,
dit la nuit.
Jamais Zeus ne le permettra. Il est interdit aux dieux de communiquer avec...
Zeus doit affronter la réalité,
beugle la nuit.
Ou alors tout sombrera dans le chaos, y compris son royaume.
Achille fait deux pas vers la gigantesque silhouette noire. Il a passé son bouclier à son bras, comme prêt à combattre.
Hé, hey, je suis là, tu te rappelles ? Ils attendent toujours que tu répondes à ma question. Où est Zeus ?
Nyx se penche sur lui et pointe un doigt pareil à une lance livide.
La probabilité quantique pour que tu périsses de ma main est peut-être égale à zéro, fils de Pélée. Mais si je devais te réduire à des composants moléculaires, voire atomiques, l'univers aurait des difficultés à faire respecter cet axiome, même au niveau quantique.
Achille attend. Il a remarqué que les dieux profèrent souvent du charabia de ce genre. La seule chose à faire est d'attendre qu'il redevienne sensé. Nyx reprend la parole avec des accents évoquant une mère déchaînée.
Erré, fils de Chronos et de Rhea, sœur et épouse incestueuse de Zeus, qui a déjà commis meurtre et forfaiture au nom de la cause achéenne, a déployé toute sa séduction pour éloigner son époux des devoirs de sa charge. Et elle a profité de leur copulation pour lui injecter une dose de sommeil absolu dans une grande maison où la femme d'un héros pleure sur son ouvrage, le faisant le jour pour le défaire la nuit. Le héros dont je parle, rechignant à prendre son plus bel arc pour guerroyer à Troie, l'a laissé dans une chambre secrète, fermée par une porte secrète, loin des regards des domestiques comme des pillards. Lui seul peut bander cet arc, un arc capable de projeter une flèche à travers les yeux de 12 fers de hache alignés, ou encore les corps de 6 hommes, coupables ou innocents.
« Merci, déesse !»
dit Achille qui entreprend de descendre l'escalier à reculons. Après avoir jeté un regard autour de lui, Héphaïstos le suit, veillant également à ne pas tourner le dos à la silhouette aux robes d'ébène. Lorsqu'ils arrivent en bas des marches, la nuit a disparu.
« Qu'est-ce que c'est que ce baratin ?»
marmonne l'artificier en activant la console virtuelle du char, faisant réapparaître les chevaux.
« Une épouse de héros qui pleurniche, une putain de chambre secrète, 12 fers de hache alignée. Qui a parlé, Nyx ou l'oracle de Delphes ?»
Zeus se trouve sur Ithaque,
déclare Achille comme il s'éloigne du château, de l'île et des hurlements des monstres invisibles.
Odysseus lui-même m'a confié qu'il a laissé son plus bel arc dans son palais, sur son île rocheuse, caché dans une chambre secrète au milieu d'herbes odorantes. J'ai jadis visité la demeure du rusé Odysseus. Lui seul est capable de bander cet arc. C'est du moins ce qu'il dit, et je n'ai pas eu l'occasion d'essayer. Et le fils de Laerte adore frimer en tirant une flèche à travers 12 fers de hache, en particulier à l'issue d'une soirée bien arrosée. Et si des soupirances se sont introduits chez lui, attirés par les avantages de Pénélope, je suis sûr qu'il serait ravi de leur transpercer le corps à coups de flèche.
La demeure d'Odysseus sur l'île d'Ithaque,
maugré Héphaïstos.
Endroit idéal pour y planquer Zeus. Dis-moi, fils de Pélée, as-tu une idée du sort que te réserve Zeus après que tu l'auras réveillé en ce lieu ?
Je ne tarderai pas à le savoir,
rétorque Achille.
Peux-tu nous téléporter là-bas depuis ce char ?
Un peu, mon neveu !
L'homme et le dieu s'évanouissent, et le char, à présent inoccupé, continue de survoler le bassin d'Hellas en direction du nord-ouest.